Tout le basket est sur RTL l'équipe. Carrément basket, Frédéric Schweiker.
11h30, 12h30, vous l'aurez compris, c'est la grande dernière de Carrément Basket. Toute l'actualité de la balle orange qui va être décortiquée pour la dernière fois avec tout d'abord de la NBA. On le disait, la victoire de Dallas face à Miami en finale NBA avec deux Français dans les rangs des Mavs, Rodrigue Beaubois et Yann Maïmi. Nous entendrons justement l'intérieur international qui nous a accordé une petite interview hier soir. Il n'arrive pas à redescendre de son nuage, il nous le dira, nous le confiera tout à l'heure. On l'entendra également, Dirk Nowitzki, le MVP de cette finale et peut-être la plus grande déception de cet affrontement, LeBron James. On parlera également de l'équipe de France masculine. Hier, Vincent Collet a dévoilé sa liste pour l'Euro 2011 qui va se jouer au mois d'août et septembre prochain en Lituanie. 12 joueurs sont sûrs. Il y aura également 4 remplaçants qui vont les accompagner durant la préparation. Nous reviendrons sur cette liste avec justement le principal concerné, le sélectionneur de l'équipe de France, Vincent Collet. Nous sommes également avec Céline Dumère, la meneuse de l'équipe de France féminine. Cette fois, l'équipe de France féminine qui se prépare pour son Euro également. Ça commencera samedi, dès samedi, en Pologne, l'Euro qualificatif pour les prochains Jeux Olympiques. On fera une présentation de cette compétition. Les finales de championnat de France également qui se sont jouées le week-end dernier à Paris-Bercy. Nancy a battu Cholet. Nanterre a dominé Dijon. Nous serons avec Stéphane Brun, le joueur nancéen qui a donc été sacré pour la deuxième fois avec le club lorrain, avec le SLUC face au tenant du titre, le SLUC qui va retrouver l'Euroleague. Et en fin d'émission, je le disais, la finale également en Espagne qui s'est terminée hier. Barcelone a dominé Bilbao 3-0, 64-55 lors de leur dernier affrontement et l'éternel Juan Carlos Navarro a été élu MVP de la finale.
Sur RTL l'équipe, Carrément Basket jusqu'à 12h30.
Et autour de moi, autour de la table pour cette dernière émission de Carrément Basket, l'équipe est en force, on a envie de dire. Jean-Luc Thomas est avec nous. Salut Jean-Luc.
Bonjour, bonjour.
Et ainsi qu'Arnaud Lecomte. Bonjour Arnaud.
Bonjour à tous.
Et on rappelle que bien évidemment, comme toutes les émissions de Carrément Basket, vous pouvez la retrouver en podcast sur le rtl.fr, rtl-l'équipe.fr, mais également interagir via notre page Facebook. Vous tapez Carrément Basket et vous pouvez laisser vos petits messages qui seront relayés durant l'émission.
Carrément Basket.
Carrément Basket.
Oh, super. La NBA.
Ladies and gentlemen, please welcome the Dallas Mavericks are NBA champions, the first title in franchise history.
Le premier titre dans l'histoire de la franchise des Mavs qui a 33 ans cette année. Dallas qui s'est imposé en finale NBA. 4 victoires à 2 face au Heat de Miami. 105-95 lors du dernier match dans la nuit de dimanche à lundi. Jean-Luc, est-ce qu'on peut dire que c'est la victoire du jeu collectif face à la somme d'individualité?
Ah ben, je pense que si on dit ça, on enfonce une belle porte ouverte.
Oui, c'est sûr.
Non, mais on n'aura pas totalement tort. On n'aura pas totalement tort. Ben oui, bien sûr, c'est un collectif abouti, un collectif qui avait souffert, qui a mûri, qui a échoué et qui finalement a trouvé sa, non pas sa rédemption, parce que le mot serait bien fort, mais a trouvé sa récompense, au moins.
Mais effectivement, et d'ailleurs, l'équipe titrait en une hier, Arnaud, en toute justice. C'est en toute justice que, effectivement, Dallas et Dirk Nowitzki, on y reviendra sur le cas de l'Allemand, mais que donc cette entité Dallas a réussi à remporter son premier titre.
Oui, une justice sportive au moins, une morale sportive peut-être aussi, diront d'autres observateurs, parce que, bien entendu, Dallas traînait depuis une petite dizaine d'années, on va dire, parmi les toutes meilleures équipes NBA, avait la réputation d'être une équipe extrêmement stable en saison régulière, d'être
ça toujours jamais à moins de 50 victoires la saison, voilà, hein, quoi qu'il arrive.
Toujours dans le peloton de tête, toujours placé, jamais gagnant, avec un traumatisme qui est justement la finale de 2006 contre Miami, qui avait été perdue dans les conditions dont on se souvient, à savoir mener deux victoires à zéro, avoir je ne sais plus une quinzaine de points d'avance dans le match 3 et puis finir par perdre cette finale. Et là, c'est le scénario exactement inverse qui s'est produit.
C'est ça.
Qu'est-ce que ça doit être, comment dire, quelle délectation pour Nowitzki, pour Mark Cuban, pour Jason Terry,
ah
qui
oui,
a connu aussi ce traumatisme. Donc effectivement, il y a une forme de justice aussi dans le fait que Dallas méritait peut-être plus que toute autre franchise de remporter ce titre.
Et c'est vrai qu'il y avait en plus le sentiment de s'imposer en plus chez l'ennemi. On rappelle que cette victoire, cette dernière victoire, était dans l'American Airlines Arena.
Sur le parquet de Miami.
Donc on savoure encore plus. Et Mark Cuban en a bien profité d'ailleurs.
Oui, il en a bien profité. Mais justement, à propos de Mark Cuban, je crois que dans l'approche de l'événement, Dallas a vraiment très bien fait les choses, y compris Mark Cuban.
On n'a pas beaucoup entendu
qui
par
avait,
la finale.
Qui avait su se faire haïr des officiels, se faire détester et qui a bien pris soin de fermer sa grande bouche jusqu'au moment où il a eu vraiment le droit de la rouvrir. Un petit peu, n'empêche qu'il a bien fait les choses, y compris d'ailleurs dans la remise du trophée, dans sa façon de s'effacer derrière le vieux Texan propriétaire de la franchise et tout. Non, c'était bien vu, c'était bien fait. Il n'y a pas eu de faute de goût, il n'y a pas eu de faute de goût non plus dans l'approche mentale sur le terrain. Il y a eu un dialogue entre Jason Terry et Nowitzki qui a été révélé après, où il l'a encouragé en lui disant non, et tu te souviens de 2006, on va pas lâcher comme ça. Et le grand Dirk qui revient en bombe dans le match dans le dernier carton. Non, tout ça, ça a été très bien maîtrisé, oui.
Et d'ailleurs, il y a un homme qui était sur place, notre consultant en NBA, même de carrément basket, durant toute la saison. Il était avec nous et il nous fait un petit coucou pour cette dernière. Il rentre à peine des États-Unis. C'est Georges Eddy qui nous fait le plaisir d'être avec là. Salut Georges!
Salut Fred. Alors,
racontez-nous un petit peu cette ambiance, notamment lors de ce match 6 dans cette salle de Miami, avec effectivement les joueurs de Dallas qui fêtaient le titre sur le parquet. Comment justement le public a réagi? Est-ce que il y a eu un petit peu de haine par rapport à leur équipe qui leur avait tant promis en début de saison? Est-ce que finalement ils se sont résignés en voyant la domination de Dallas?
Oui, il y a un peu de tout ça. En fait, contrairement à ce qu'on pense habituellement du public de Miami, ils ont super bien soutenu les Heat pendant le match 6. On n'a jamais entendu autant de bruit, autant d'ambiance dans la salle de Miami où généralement le public est un peu lymphatique. Par contre, vers la fin, quand LeBron James avait le ballon, on a entendu le public huer un tout petit peu parce qu'il n'osait pas prendre des risques, comme c'était le cas depuis 3 ou 4 matchs. Graduellement, il s'est un peu effacé et c'était vraiment la clé pour Miami parce que Dwayne Wade était un peu diminué à la hanche et avec un LeBron pas à 100%, c'était difficile pour Miami de s'imposer, même à domicile. Et puis on a senti que Dallas était très très fort dans sa tête, a toujours revenu au score dans chaque match, a jamais baissé les bras. Avec leur expérience, a toujours trouvé des solutions, comme Jason Terry, qui était le MVP du match 6. Donc, le public de Miami, en fin de compte, s'est rendu compte que c'était pas pour cette année. Et même à 2 minutes de la fin, le public commençait à filer vers les sorties.
Ouais. Et c'est vrai qu'on en parlait avec Arnaud et Jean-Luc, l'ambiance durant toute cette finale, que ce soit sur le parquet, à part les 2-3 minutes dans ce match 6 où ça s'est un petit peu échauffé, mais que ce soit sur le parquet ou en dehors du parquet, a plutôt été respecté, plutôt bon enfant. On est bien loin des phrases assassines, notamment de Phil Jackson, qui était habitué du genre lors des finales. Est-ce que vous avez également ressenti la même chose des États-Unis? Est-ce que on a eu une finale un peu plus, entre guillemets, aseptisée?
Non, je n'utiliserai pas du tout ce mot-là. Je pense qu'il y avait du respect, du fair play. La preuve, Pat Riley est descendu dans les vestiaires de Dallas pour féliciter les Mavs tout de suite après la victoire dans le match 6. C'était deux clubs qui ont affiché une grande classe, beaucoup de fair play. Mais au contraire, cette finale a été archi disputée avec des matchs souvent qui s'est décidé sur la dernière possession. Il y a eu la mini-bagarre du match 6, il y a eu un peu d'intimidation, un peu d'agressivité excessive de la part des joueurs comme Haslam, Jed Terry, qui aime bien parler avec son trash-talking, mais qui derrière répond présent sur le terrain. Deshaun Stevenson, qui chambrait LeBron tout au long de la finale, dans la presse. Donc, il y avait, comme disait Rick Carlisle dans la conférence de presse d'après le match, il y avait même des histoires un peu, on va dire, entre guillemets, haineuses entre les joueurs, parce que quand on rencontre la même équipe 6 fois de suite, forcément, ça devient une histoire personnelle, disait Carlisle. Il n'y avait pas d'amour perdu entre les joueurs, parce que chaque joueur et chaque équipe voulait le Graal, voulait ce titre, Et comme il n'y a aucun joueur dans l'équipe de Dallas qui avait gagné le moindre titre NBA.
Ah oui, c'est pour tous les joueurs-là, c'est seulement le premier titre hein, pour les 15 joueurs de l'effectif des Mavs.
Et comme c'est une équipe vieillissante avec beaucoup de trentenaires, même largement dépassés pour Jason Kidd, Sean Marion et Nowitzki, c'est ce que disait Carlisle, l'heure de Miami viendra, mais l'heure de Dallas, c'est maintenant, et il fallait que ça soit maintenant. Parce que on va dire que leur horloge biologique tournait et tout le monde sentait que c'était cette année ou jamais pour les Mavs. Donc on va pas parler de haine, mais on va parler d'agressivité tout à fait normale. On va parler d'engagement, d'émotion. Franchement, c'était pas du tout aseptisé.
Eh bien, en tout cas, c'est une belle finale que vous nous avez fait vivre également, Georges, bien évidemment, à travers vos commentaires pour Canal+, et également via également tout ce que vous avez fait pour RTL L'Équipe. C'était un plaisir, en tout cas, de travailler avec vous durant toute cette année. Merci beaucoup d'avoir fait un petit passage pour cette dernière, Georges. Et on espère
c'est
donc
normal,
vous...
Et je peux te dire que tout le plaisir était pour moi de collaborer à cette excellente émission tout au long de l'année, qui est tout à fait à l'honneur de RTL L'Équipe Radio. Toi en premier et puis tous les intervenants, parce que c'est pas du radio populiste comme ça existe ailleurs, c'est du radio journalistique et avec du fond. Et ce n'est pas que du blabla et de la forme, cette émission Carrément Basket représentait pour moi du vrai journalisme et beaucoup de fond.
Et ça fait très plaisir d'entendre ça, Georges.
Avec vous.
Ça fait très plaisir d'entendre en tout cas tous ces compliments venant de votre part. Et ben à très bientôt, Georges. On aura l'occasion bien évidemment de se recroiser durant tous les événements basket. Ladies and gentlemen, oh,
here he goes. RTL L'Équipe, Carrément Basket, Frédéric Schweiker.
Allez, on continue de parler de cette finale NBA Dallas qui s'est donc imposée face à Miami. Arnaud, c'est également une victoire pour Rick Carlisle qui a dominé, c'est le moins qu'on puisse dire, Rick Spoelstra dans les choix stratégiques avec cette défense de zone qui a totalement annihilé l'attaque de Miami. Et puis ces petits ajustements, on pense notamment à l'arrivée dans le 5 de JJ Barea.
Oui, on parlait en début d'intervention du collectif qui prend le pas sur les individualités. Effectivement, sur le plan du jeu, on a vu du basket très riche du côté de Dallas, forcément lié à la qualité, à la profondeur de l'effectif. C'est peut-être c'est un peu l'image que je garderai de cette équipe-là de cette année. C'est, je crois, l'effectif le plus dense, le plus riche qu'on ait vu chez un champion NBA depuis très longtemps. Parce que vous aviez des solutions à peu près partout, jusqu'au bout du banc. Imaginez quand même que deux joueurs comme
Plus Karen... que Boston, par exemple, sur les dernières
saisons. Ah oui, bien sûr. Imaginez que des joueurs comme Caron Butler ou Rodrigue Beaubois n'ont pas joué une seconde pendant les playoffs, alors que ce sont deux joueurs qui vont incarner probablement la suite, la continuité de cette franchise. Georges parlait d'une équipe effectivement trentenaire. Mm-hmm. Elle n'a pas une durée de vie très très importante, cette équipe-là, telle qu'elle est bâtie actuellement. Mais en revanche, deux joueurs qui n'ont pas joué ces finales en raison, ces finales et même ces playoffs en raison de leurs blessures, Butler et Beaubois, vont être quelque part le futur, un petit peu, qui vont prolonger un petit peu aussi la carrière d'un Nowitzki, d'un Jason Kidd, probablement pour une ou deux saisons, en tout cas pour Jason Kidd. Pour Nowitzki, je pense qu'il a encore quelques belles années devant lui. Ce qui est sûr, c'est que la profondeur, la richesse de ses effectifs a permis à Rick Carlisle, en effet, de proposer des choses qui sont un peu atypiques, d'une certaine manière, dans le basket NBA. De la zone. On a vu une défense de zone très efficace. Effectivement, il a pu pianoter sur son effectif pour faire les ajustements qui ont été a priori décisifs. La venue, la montée entre guillemets de Gigi Barea dans le 5.
À la place
de Deshaun Stevenson. On a vu des choses tactiquement qu'on n'a pas vu du tout à Miami, où en effet on s'est retrouvé avec une, surtout sur la fin de la série, avec une pauvreté dans le jeu et dans la décision, dans la manière de faire la décision sur le terrain, qui m'ont, moi, extrêmement surpris. Quoi. Je pensais quand même que Miami avait une maturité collective plus importante que ça. Là, franchement, c'est une équipe qui s'est complètement désunie sur la fin. Et Dallas y est pour beaucoup, avec en effet toute cette richesse d'effectifs et de tactique.
Jean-Luc ?
Oui, bien sûr. La zone... Et les options défensives, les variations défensives, je dirais, de Dallas ont cruellement souligné finalement ce que l'on n'imaginait pas forcément des carences dans le jeu de LeBron James. Je crois que c'est Steve Kerr qui a souligné ça, qui a bien mis le doigt dessus, en disant, ben, on a vu que balle en main, finalement, il avait encore pas mal de choses à travailler.
Il était plus Pippen que Jordan.
Le fait qu'il peut pas, il n'a pas de registre réel dans le poste bas, alors qu'avec le physique qu'il a, il pourrait en tirer un parti particulièrement intéressant. Et ce qui fait que ça, ces carences-là ont été mises en lumière par la défense de Dallas, qui a très très bien joué le coup là-dessus. Et puis alors après, évidemment, c'est le fait que lui soit bloqué dans sa capacité créatrice a remis une couche de pression à Dwayne Wade, qui n'en avait peut-être pas besoin à ce moment-là de la saison. Était-il un peu, beaucoup, très, très affaibli par sa blessure à la hanche, je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que lui est complètement passé à travers aussi du match 6, quoi. Voir ce type qui avait tellement dominé les finales NBA se dribbler sur le pied à ce moment-là de la saison, ça fait mal quand même.
Effectivement, il a eu deux passages à vide lors des derniers matchs, lors des dernières secondes des rencontres. Dwayne Wade, on reviendra sur le cas de Miami tout à l'heure. Et avant de parler du cas de Dirk Nowitzki, je vous propose d'écouter l'interview que nous a accordé hier Yann Mahimi, l'un de nos deux Français titré lors de cette finale, qui lui a joué plutôt bien, même d'ailleurs dans le match 6. On l'a joint hier, Yann Mahimi. Alors Yann, j'imagine qu'on a encore du mal à descendre de son nuage après cette victoire en finale NBA.
Non, c'est vrai que là je plane, je suis vraiment sur mon nuage. Les dernières journées ont été franchement magnifiques. J'aurais jamais imaginé ça. C'est vraiment unique. Et les moments que je vis en ce moment, c'est vraiment, je les apprécie vraiment. C'est inexplicable.
Qu'est-ce qu'on se dit justement au moment où on soulève le trophée, où on se rend compte de la finalité qu'on est champion NBA?
Mais il y a beaucoup d'émotions, tu vois, mais t'as un peu du mal à te rendre compte. Moi, je me suis vraiment rendu compte qu'on était champion quand on est arrivé à Dallas. Mm-hmm. Quand on est arrivé à Dallas, et j'ai vu la foule qui nous attendait à l'avion, sur la route. Il m'a fallu une heure pour rentrer chez moi. c'est là que je me suis rendu compte. J'ai dit, on est vraiment les champions NBA. Toute la ville de Dallas est derrière nous. Et partout où je vais, les gens crient mon nom dans la rue. C'est incroyable. Mais au moment de soulever le trophée, t'es beaucoup d'émotions, t'es super heureux, mais tu te rends pas exactement compte de ce qui se passe. Et là, c'est vrai que là, depuis qu'on est rentré à Dallas, c'est vraiment exceptionnel.
Et j'imagine que le fait d'avoir joué dans cette finale, on a une pensée bien évidemment pour Rodrigue qui lui n'a pas joué, d'avoir joué dans cette finale, j'imagine que ça apporte encore un peu plus justement à l'émotion d'avoir remporté le titre.
Bah oui, bien sûr, ça rajoute beaucoup d'émotions. C'est vrai que d'avoir pu jouer ce dernier match et le fait que j'ai pu jouer devant mon entourage, ma mère, mon père, ma famille, mes amis, tout ça, c'est exceptionnel.
Justement, le fait de la partager avec un autre Français, est-ce que ça a d'autant plus une saveur particulière?
Ouais, c'est une saveur particulière. De jouer, d'avoir contribué, ça a forcément une saveur particulière.
Un mot sur le MVP de la finale, Dirk Nowitzki, votre coéquipier, l'Allemand, qui a été phénoménal durant les 6 rencontres. J'imagine que c'est un modèle à suivre désormais.
C'est un modèle, grand monsieur du basket. Mmh. C'est vraiment ce qu'il a fait les dernières années pour cette franchise et ce qu'il a fait cette année pour nous. Franchement, je pense que c'est largement mérité. C'est largement mérité parce que il a tellement travaillé pour arriver à cet objectif. Et le fait de le voir soulever le trophée, le fait de voir soulever le trophée d'MVP, c'est vraiment, franchement, je suis super content. Et je le disais juste après la finale, je ne sais pas s'il était plus content pour moi ou s'il était plus content pour lui, qu'il a enfin gagné son titre. Et c'est vrai qu'aussi Jason Kidd, à 38 ans, il a attendu aussi la fin de sa carrière pour enfin remporter cette bague de champion. Donc franchement, je suis super content pour Dirk, je suis super content pour Jason Kidd. Je suis content pour tout le monde, mais j'ai une spéciale pensée pour les deux là.
Quand vous êtes arrivé à Dallas en début de saison, en étant parti de San Antonio, est-ce que vous attendiez à une telle finalité?
Forcément, enfin, je m'attendais à faire les playoffs, etc. Mais après, c'est toujours la même question, tu vois. T'es dans une équipe qui vise le titre tous les ans. Donc j'étais dans une équipe comme ça à San Antonio et je suis parti à Dallas. Les objectifs sont les mêmes. arriver en play-off le mieux placé, et puis après, une fois arrivé en play-off, voir, tu vois. Mais, mais les objectifs que j'avais à San Antonio étaient exactement les mêmes ici.
Dernière question, Yann. Est-ce que vous êtes au courant du buzz que vous avez fait en France ? Maintenant, vous faites la une du Parisien, on parle que de vous, le nouveau français.
Savoir. Bon, j'ai quand même reçu une flopée de textes. J'ai reçu au moins entre 200 et 300 textes en deux jours. Donc, c'est vrai que ça fait super plaisir d'avoir ce soutien tout de la France. Et je suis content aussi de représenter la France. Tu sais, le champion NBA, ça n'arrive pas tout le temps. Donc avoir un représentant français, je pense que c'est quelque chose. Et ça me fait chaud au cœur. Ça me fait chaud au cœur. Et je reçois aussi des images, des emails, tout le monde me dit « Bon Yann, là t'es sur tel journaux, t'es passé à la télé, t'es passé… » Donc non, je suis super content, c'est une fierté, c'est bien pour ma famille, c'est bien pour moi. Et ça fait partie des moments d'une carrière inoubliable. Inoubliable, et c'est fait aussi à partir des médias. Vous vous rendez aussi les moments inoubliables.
Inoubliable pour Yann Maïmine, donc l'un de nos deux Français titrés avec cette équipe de Dallas. Une petite pause et on revient en compagnie d'Arnaud Lecomte et de Jean-Luc Thomas du quotidien L'Équipe pour parler du cas Dirk Nowitzki et surtout analyser le cas Miami.
Carrément basket.
Carrément basket.
Oh, super. La NBA.
Allez, l'équipe de Dallas, vainqueur de ce titre NBA. Ce titre remporté face à Miami, 4 victoires à 2, grâce notamment à un homme, l'Allemand Dirk Nowitzki, qui a, on l'a envie de dire, dominé cette finale, au moins ébloui de sa classe dans les moments décisifs. Et c'est celui qui fait la une du quotidien L'Équipe hier. Il fait la une de BAM également cette semaine. Il est partout, Dirk Nowitzki. 26 points, presque 10 rebonds, 2 passes décisives par match durant cette finale. Arnaud, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Dirk Nowitzki est le meilleur Européen de l'histoire ? C'est en tout cas comme ça qu'il a annoncé dans le journal hier. Hein.
Sûrement, ouais, ouais. C'est bon, après, on peut débattre à l'infini et c'est génial de débattre de ça. Bon, là, il lui manquait effectivement un titre. C'est le premier titre de sa carrière. Mais quand je dis premier titre, il n'est même pas champion de deuxième division allemande. Il n'a pas gagné une semaine des As. C'est incroyable, il a 33
premier titre
ans.
Collectif, parce qu'il a déjà eu une distinction individuelle.
Oui, premier titre collectif, il n'y a que ça qui compte hein, pour décerner les bons points ou les mauvais points. Donc c'est étonnant, à 33 ans, il n'avait jamais rien gagné, ce garçon-là. Donc là, effectivement, c'est l'étape fondamentale pour lui dans l'histoire du basket. Il va forcément rester parce que déjà, c'est un champion NBA, MVP des finales, qui a été MVP de la saison, on n'oublie pas. Donc c'est déjà un petit peu mieux que Tony Parker, même si Tony a 3 titres, ne l'oublions pas, et que je ne suis pas sûr que Dirk en aura 3. Après, Dirk Nowitzki marque les esprits. Pourquoi ? Parce que c'est un joueur unique. C'est un garçon qui n'a pas grande qualité physique, si ce n'est...
On dit c'est un peu old school, quoi. Ils ne sont pas très
exactement,
haut.
Exactement, dans ce monde aujourd'hui qui est quand même fait du basket de vitesse, de qualité athlétique, de saut, etc., Nowitzki est vraiment atypique pour le coup, parce que c'est un très grand technicien qui a réinventé d'une certaine manière le basket des années 70-80, ou qu'il perpétue, à défaut de le réinventer. Et c'est un personnage également tout à fait atypique parce que 2m13, un shooter exceptionnel, il n'y a pas d'équivalent dans l'histoire du basket dans le passé. On fait souvent des comparaisons à tort ou à raison avec Larry Bird, qui est peut-être le modèle le plus proche, ou Nowitzki est peut-être le modèle le plus proche de Larry Bird, le grand Larry Bird des années 80. Moi, je crois qu'effectivement, Nowitzki se situe aujourd'hui même au-delà du meilleur basketteur international de l'histoire ou pas. Ça va au-delà de ça. C'est un des plus grands basketteurs de tous les temps, toutes nationalités confondues. C'est quand même incroyable. Hein, on aurait dit ça à Jean-Luc, je prends Jean-Luc à témoin, on aurait dit ça un jour à Jean-Luc, un Allemand qui aurait été considéré comme le meilleur joueur du monde à un instant T, on n'aurait jamais cru. Quoi.
Euro 99 en France, qui se souvient de Nowitzki ? Moi je me souviens par contre d'un scout français qui connaît pourtant très très bien son métier.
On ne va pas citer son nom par charité chrétienne.
Mais qui avant cet Euro, un an avant, nous disait que Nowitzki était sans doute un joueur très très surfait, et il n'avait peut-être pas tort.
Moi néanmoins,
il avait du mal en début de sa carrière,
ce qu'il faut voir derrière ça, c'est que c'est un des plus grands joueurs de l'histoire aujourd'hui. C'est aussi sans doute peut-être la plus grande éthique de travail en basket à travers toutes les époques. Parce que ce type-là a consenti à son sport une dose de travail que très peu de joueurs, je pense, sont capables de consentir.
Alors justement, cette dose de travail, on va l'écouter, Dirk Nowitzki, il en a parlé en conférence de presse, justement, le fait que si jamais il n'avait pas remporté le titre aussi tardivement sa carrière, il n'aurait peut-être pas autant travaillé. On écoute le MVP de la finale 2011, Dirk Nowitzki.
Si j'avais remporté ce titre plus tôt dans ma carrière, je n'aurais pas travaillé aussi dur que lors de ces 13 dernières années. C'est vraiment incroyable. Je suis content pour Jason Kidd. Quel guerrier à 38 ans. Jason est le plus grand athlète dans cette ligue. C'est juste une équipe incroyable, un groupe spécial, et nous sommes champions du monde, donc c'est magnifique. Nous avons eu une sorte d'énergie qui nous a animés depuis le début de la saison, avec notamment Tyson Crotal Chandler qui a fait du gros travail en défense. Nous sommes la meilleure équipe du monde et cela procure un sentiment incroyable.
Et c'est également un personnage, hein, Dirk Nowitzki. Arnaud, quand on le voyait en conférence de presse, un petit peu avachi dans son fauteuil, là, avec le t-shirt, bon, il avait la fatigue, tout ça, mais ça n'a rien à voir. C'est vraiment l'antithèse, en voyant, du coup, ça peut être faire la transition avec Miami après. C'est vraiment l'antithèse de LeBron James, l'humilité de Dirk Nowitzki, et ce côté, voilà, un petit peu.
Ce bon vieux Georges Brassens qui disait que sans technique, un don n'est rien qu'une sale manie. Did you hear that, LeBron?
Ah, le message est passé, en tout cas. Arnaud?
Oui, oui, et puis il y a un côté rock'n'roll, il y a un côté simplissime, back to the roots, quoi. Les 70s, un peu bab sur les bords. Puis lui est arrivé des tas de galères quand même, Nowitzki. Rappelez-vous l'histoire avec celle qui devait devenir son épouse il y a deux ans. On s'est rendu compte que c'était un escroc. Le pauvre, il a dû passer là par des sales moments, de manière privée, là, pour le coup. Mais c'est pas toujours privé, ces choses-là, parce que forcément, bah, quand on est un athlète de ce niveau-là, et tout ça est public. Donc il faut pouvoir surmonter ces choses-là. Il y a eu déjà les déceptions énormes, les traumatismes qu'il a pu vivre sportivement.
En 2007,
de la finale de 2006, et puis derrière l'élimination en 2007, premier tour des playoffs, la plus grosse surprise de l'histoire.
On pourrait rajouter aussi les efforts qu'il a consentis pour son équipe nationale et qui n'ont pas été récompensés, peut-être comme il l'aurait dû. Aussi, parce qu'il a tracté son équipe nationale comme peu de joueurs l'ont fait aussi.
Il l'a tracté, mais pour autant, il n'est pas fou quand même. Hein. Il sait très bien que tout seul, il était quand même compliqué de gagner un titre international, un championnat du monde, un championnat d'Europe, ou les Jeux. Mais ce qu'il a fait avec l'équipe nationale, c'est aussi assez exceptionnel, parce que c'est une équipe relativement moyenne, on va dire, à l'échelle européenne, et elle a quand même été sur un podium, quoi, mondial, hein. Attention, c'est pas rien, quoi. Et lui, il a été MVP de ces compétitions-là, donc c'est un joueur qui aura marqué son époque, incontestablement, quel que soit son avenir, qu'on suppose, de toute façon, encore très glorieux. Et attention à lui, l'équipe de France va le jouer avec l'Allemagne au mois de septembre.
Dès le premier tour, effectivement, on aura l'occasion d'en reparler dans quelques
petits instants. Et puis c'est un type sympa, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi?
C'était émouvant de le voir partir comme ça dans les vestiaires.
Effectivement, l'antithèse de LeBron, pour revenir au point de comparaison que vous faisiez au départ, Fred, c'est vraiment l'antithèse, ouais. On le voit en conf de presse. Alors, c'est vrai qu'il est plus détendu, il est un peu moins tendu que LeBron à ce moment-là. Mais la manière dont il s'est présenté en conf de presse, très cool, très tranquille, très bas.
Ah, ça a toujours été comme ça. Des images, en tout cas, de conférences de presse qu'on a de Nowitzki. C'est toujours comme ça. Il prend le micro d'NBA TV à la main. Il est avaché dans son fauteuil.
Pourrait amener sa guitare. Je crois qu'il le ferait.
Un Allemand, hein. Les Allemands, je trouve qu'ils ont... Regardez Joachim Löw, l'entraîneur de l'équipe nationale d'Allemagne l'année dernière à la Coupe du Monde. Il donnait cette impression-là aussi. Klinsmann est un petit peu comme ça aussi. C'est des gens qui ont effectivement peut-être une certaine distance sur les choses qui leur permet d'être très simples tout le temps.
Allez, on reviendra en tout cas sur le cas de Miami juste après la publicité, le rappel des titres, et ensuite on nous verra les pages équipe de France et Pro A.
C'est l'équipe, carrément basket. Frédéric Schweiker.
La deuxième partie de Carrément Basket, la grande dernière de Carrément Basket. On va terminer la page NBA pour parler rapidement du cas de Miami. Ensuite, nous recevons Vincent Collet, le sélectionneur de l'équipe de France, qui a dévoilé sa liste hier pour l'Euro en Lituanie. L'équipe de France féminine, avec Céline Dumère, qui sera notre invitée, la meneuse internationale, nous présentera et on fera une présentation avec elle de cette compétition qui débute samedi à l'Euro en Pologne. Et on parlera également des finales de Pro A, de Pro B et Espagnol.
Carrément basket.
Carrément basket.
La NBA.
Et toujours à mes côtés pour parler basket, Arnaud Lecomte et Jean-Luc Thomas, les représentants du quotidien L'Équipe. Messieurs, rapidement, le cas de Miami qui a terminé donc en finale. Est-ce qu'on peut dire, Arnaud, que c'est un échec pour Miami qui avait annoncé en début de saison 7 titres ou 8 titres ou 9 titres, mais qui, quand même, pour une première saison avec 3 grosses stars, arrive quand même à atteindre la finale?
J'ai envie de dire que pour n'importe quelle franchise qui atteindrait la finale pour la première fois, on va dire, avec un nouvel effectif, etc., ce serait pas un échec du tout. Pour Miami, cette année, je suis désolé, mais c'est forcément un échec. Parce qu'il y a eu tellement de... Après, c'est un échec de com', hein.
D'accord.
Soyons clairs, l'échec sportif, on va le relativiser. Parce qu'on imagine bien que cette équipe-là va progresser. Et puis c'est une belle histoire à l'américaine qui va se produire tôt ou tard, probablement. Elle va, elle aussi, galérer un certain temps. LeBron en est l'archétype, là, hein, du type qui va tôt ou tard probablement retourner la tendance, parce que là il morfle, hein, et il n'a pas fini de morfler. Donc il va retourner, il va
sur Internet.
Je l'espère pour lui, parce qu'il y a, je le souhaite pour le basket aussi en général, parce que c'est, je veux dire, on lui tape dessus là de manière. Alors je défends pas. Hein. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un moment donné où ça va probablement basculer dans de l'autre côté. En tout cas, je le souhaite pour lui et pour le basket d'une manière générale. Alors, je ne sais pas si c'est l'année prochaine, si c'est dans 5 ans, etc. Ce qui est sûr, c'est que c'est forcément un échec de com' cette année, parce que bah, ils ont fait un tel cirque, il y a eu un tel buzz autour de la mise en place de cette super équipe que bah ouais, on en rigole aujourd'hui, parce que bah ouais, ils sont lamentablement plantés. Alors, il ne faut pas tout jeter au panier non plus. C'est une équipe qui a été en finale NBA. Voilà, il n'y en a eu que deux, hein, cette année. Elle a perdu, voilà, elle termine très mal, et effectivement, c'est un échec davantage de com' qu'un échec sportif à mes yeux.
C'est vrai que Jean-Luc, par rapport à Miami, ce qu'on retiendra, c'est cet abandon, on a envie de dire, de LeBron James au fur et à mesure de cette finale, et notamment dans les quatrièmes cartons.
J'ai vu deux choses très très cruelles ce matin sur Internet. Un petit clip qui reprenait les images de la fameuse présentation du trio magique l'été dernier, qui était mise en regard évidemment des singeries pour se moquer d'eux aujourd'hui. Bon, ça c'est l'échec de com dont parlait Arnaud. Et puis j'ai vu un deuxième truc très très cruel, c'était la palette de Jacques Monclar de retour sur le match, cette extraordinaire séquence où vous voyez tout le 5 majeur de Miami se repasser la balle en ne voulant surtout pas prendre un tir, et ça se finit sur LeBron James qui ne prend pas le tir alors que le premier défenseur est à 5 mètres de lui. C'est juste hallucinant, mais je serais tenté de dire que c'est quand même trop gros pour être vrai, et que en effet, à un moment ou à un autre, ces types là peuvent renverser la tendance, quoi. Ça sert à rien de tirer sur l'ambulance, quoi. On les reverra.
Et dans les erreurs de communication, il y en a encore une dernière. Lors de la dernière conférence de presse de LeBron James, on va l'écouter justement, l'ailier de Miami. Quand un journaliste lui demande quelles sont ses réactions par rapport au fait que finalement presque toute la planète basket voulait voir l'équipe de Miami perdre, voici la réponse de LeBron James.
C'est la fin de la journée. Toutes les personnes qui voulaient que je perde vont se lever demain comme ils l'ont fait ce matin, avec toujours les mêmes problèmes quotidiens. Je vais continuer de faire ce que je fais. Ma famille et moi sommes très heureux comme ça.
Voilà, ça c'est le message est clair. Chacun vit avec ses problèmes. En gros, la mauvaise image de Miami va passer et chacun reviendra à son petit quotidien.
Quelle arrogance, quoi. Là, il a encore tout faux. Il a eu tout faux jusqu'au bout, quoi. C'en est incroyable de s'enfoncer comme il l'a fait. Et jusqu'au bout, même après, en conférence de presse, il dit un truc qu'il ne devrait jamais dire, quoi. c'est pas ça qu'on attend de lui à ce moment-là, quoi. Voilà, donc bon, il a touché le fond là, LeBron. Je pense qu'il va morfler un bon moment, et puis voilà, tôt ou tard, ça, tout ça s'effacera. Mais là, il est vraiment au fond du trou.
Là, il est mal.
Moi, ce type-là, je pense qu'il vaut beaucoup mieux que sa mauvaise. Il vaut bien évidemment beaucoup mieux que sa mauvaise réputation actuelle. Mais franchement, je me demande par qui et comment il est entouré, quoi. Parce que le laisser dériver comme ça. C'est juste hallucinant, quoi.
En tout cas, on verra dans l'avenir si LeBron James peut enfin mériter ce surnom qu'il s'est autoproclamé le King avec cette équipe de Miami qui est donc à rater le coche en finale NBA face à Dallas.
Carrément basket, l'équipe de France.
Allez, la NBA, la saison est terminée en NBA. Place désormais à l'équipe de France. Les échéances vont donc arriver très vite. Et hier, Vincent Collet, le sélectionneur, a dévoilé à la fédération, au siège de la fédération, la liste des 12 plus 4 qui vont participer, en tout cas qui seront dans le groupe France au moins jusqu'au tournoi de Londres. On va rappeler d'ailleurs cette liste, hein, les 12 joueurs sélectionnés pour l'Euro 2011 qui se déroulera en Lituanie en août et septembre prochain. Les meneurs arrière, Antoine Diot, Tony Parker, Yannick Bokolo et Nando De Colo. Les ailiers, Nicolas Batum, Michael Gilabal et le grand retour de Michael Pietrus. On y reviendra avec le sélection dans quelques instants. Les intérieurs, Boris Diaw, Joachim Noah, Florent Pietrus, Ali Traoré et Ronny Turiaf, les quatre remplaçants dont on est quasiment certain qu'ils ne participeront pas à l'Euro, Andrew Albici, Charles Lambaye-Caoudi, Fabien Causeur et Kevin Serafin. Pour en parler de cette liste, le sélectionneur de l'équipe de France, Vincent Collet, est avec nous. Bonjour Vincent.
Bonjour.
J'imagine qu'aujourd'hui, le sommeil va être un peu plus facile maintenant que vous avez réussi à dégager tout de suite cette liste de 12 joueurs pour l'Euro 2011. Hein.
C'est vrai que sur les derniers jours, il y a eu beaucoup d'hésitations. Même si on a des convictions, on hésite toujours parce que certains joueurs sont proches les uns des autres. Ça se joue davantage sur des profils de complémentarité que sur la valeur individuelle des joueurs parce qu'ils sont assez proches les uns des autres. Bon, maintenant, on a fait cette sélection avec Jackie Comer et Rudy Nelhomme. Mmh. Et on va tout faire pour maintenant aller au bout de nos objectifs avec cette équipe qui est quand même, à mon sens, très très intéressante.
Est-ce que justement le fait d'avoir déjà choisi, d'avoir déjà sélectionné vos 12 joueurs pour l'Euro, c'est pour vous permettre justement de ne plus avoir à vous poser de questions sur une possible concurrence et pouvoir tout de suite vous projeter sur la compétition?
Ben c'est un gain de temps, hein. L'objectif numéro un, c'est le gain de temps. On sait qu'en équipe nationale, tout va très vite. La préparation, même si on l'a un peu allongée cette année, est souvent trop courte. C'est pour ça que les équipes simplifient les choses en équipe nationale. Mm-hmm. Donc on pense qu'en procédant comme on a fait là, ça, et comme on connaît les joueurs, hein, pratiquement tous les joueurs qui sont dans cette équipe ont joué en équipe de France lors des deux dernières saisons, à l'exception de Michael Pietrus. C'est pour ça qu'on a procédé de la sorte en se donnant donc les moyens dès le premier jour de se concentrer uniquement sur le jeu et d'essayer de progresser le plus vite possible pour être prêt le jour J.
Jean-Luc Thomas, du quotidien L'Équipe, est avec nous.
Vincent, bonjour. Tu as parlé de complémentarité des profils. On a bien compris que le fait de ne pas retenir Yann Mahinmi était tout à fait lié à ça. Le profil d'Ali Traoré te paraît plus complémentaire avec les autres joueurs que tu as dessous. Mais j'ai envie de te demander, si on comprend pourquoi tu n'as pas pris Mahinmi, qu'est-ce qui t'a véritablement convaincu de prendre Ali, sachant qu'il a vécu un mondial tout à fait en souffrance? Et s'il a fait une saison en effet assez honorable, c'est pas non plus une saison de MVP qu'il a faite en Italie.
10 points, donc 56% à Rome.
Quels ont été les arguments qui ont penché finalement en sa faveur?
Ses qualités indéniables de finisseur, même si effectivement elles ont été à la peine l'an passé. Je pense qu'il était malheureusement en petite forme lors de ce mondial, avec des soucis physiques, mais malgré tout cette année, je l'ai vu sur plusieurs matchs, il a retrouvé surtout en deuxième partie de saison après son adaptation à Rome un niveau de jeu intéressant, et puis surtout le retour d'autres joueurs, c'est-à-dire que je pense que le mondial par rapport au championnat d'Europe il y a 2 ans s'est fait avec l'absence de joueurs majeurs. Ces joueurs majeurs vont être là et on sait qu'Ali va certainement profiter, par exemple, du retour de Tony Parker. Sur pick and roll, Tony trouve les passes et met souvent les intérieurs en situation favorable. Et comme Ali est un finisseur de haut niveau, il peut profiter sur des courtes séquences. Bon, maintenant, il est clair que ça sera pas de toute façon l'intérieur majeur. Hein. On sait très bien que le poste 5 sera d'abord partagé par Joachim Erroni.
Alors justement, on a parlé du cas de Yann Mahimi, donc non sélectionné dans ce groupe par vous, Vincent Collet. On va justement écouter la réaction de l'intérieur de Dallas, pas surpris finalement par cette décision.
Pour moi, c'est une surprise sans être une surprise. J'y ai pensé énormément dernièrement et je respecte la décision du coach. Et c'est vrai qu'apparemment, il a déjà donné sa sélection et je pense qu'il a déjà bien hiérarchisé son équipe et il a déjà dans sa tête, il sait exactement ce qu'il veut faire. Donc, tu sais, derrière moi en poste 5, derrière Joe et Ronnie, c'est vrai que ça laisse pas beaucoup d'espace. Et voilà, il a préféré opter pour d'autres options. Et je respecte complètement ça. Et moi, ça va me donner beaucoup de temps cet été pour travailler encore sur mon jeu et devenir meilleur. Et voilà, et pour les peut-être à l'avenir, tu sais, revenir dans ce groupe bleu, quoi. C'est une surprise sans être une surprise, tu vois. Ça ne me fait pas du tout redescendre de mon nuage. Là, au jour d'aujourd'hui, je suis toujours en train de flotter dans les airs.
Ouais, ça n'a pas assombri le ciel de Yann Mimi.
Belle réaction en tout cas.
Oui, ah oui, moi je trouve qu'il est dans la bonne attitude, hein, Vincent.
Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est la réaction d'un garçon remarquable. Mais ça, on le savait déjà, puisque les deux campagnes précédentes de Yann, il avait un comportement irréprochable. Et c'est pour ça qu'il était dans la course, malgré effectivement un profil que je considère quand même assez proche de Joachim et de Ronnie. Et c'est vraiment pour ça que j'ai penché et balancé sur celui d'Ali, qui est quand même très différent et qui nous donne, à mon sens, une corde supplémentaire à notre arc. Mais après, bien sûr, je comprends que ça puisse poser question.
Alors Vincent, on a donc vu dans cette liste, hein, bien évidemment, le retour ou en tout cas au moins l'apparition d'un cadre qui normalement devrait devenir un cadre, c'est Joachim Noah. Le retour peut-être d'un autre cadre, Michael Pietrus, c'était la grande interrogation au sein de cette sélection. Lui qui a eu beaucoup de mal en tout cas à répondre au téléphone, là il a répondu et il répond présent à votre sélection, Vincent.
Oui, c'était la partie humoristique de la conférence d'hier. Mais clairement, son retour me semble effectivement important. Cadre, bien entendu. Je pense qu'il faut tout de suite s'enlever de l'esprit qu'on puisse réussir quelque chose dans cette compétition avec seulement quelques joueurs. Il faudra vraiment une implication des uns et des autres. Peut-être pas sur tous les matchs. Attention, peut-être qu'on jouera pas à 12 match après match. Mais par contre, je pense qu'on aura besoin de tous les joueurs sur la durée de la compétition. Le fait qu'il y ait 11 matchs en 18 jours... On connaît l'intensité des matchs de championnat d'Europe. Hein. C'est des matchs qui se jouent de la première à la dernière minute. Donc il faudra vraiment que les joueurs puissent répondre présents, parfois sur des courts temps de jeu. Et ça sera là aussi certainement une donnée qui va conditionner notre résultat, l'alchimie et surtout l'implication des uns et des autres en laissant bien sûr des états d'âme au vestiaire.
Arnaud Lecomte également du quotidien.
Bonjour Vincent. Petit rappel de mémoire, tu étais l'assistant d'Alain Weiss en 2003 lors de l'Euro en Suède qui s'était malheureusement très mal terminé et c'était également un Euro qualificatif pour les Jeux. Est-ce que quelque part ce souvenir-là, la manière dont il avait fallu gérer un petit peu le groupe cette année-là, va ressurgir un peu pour toi cette année, dans le bon sens évidemment, on l'espère, par rapport au fait que tu as également bâti une équipe qui rassemble peu ou prou les 12 meilleurs joueurs français?
Alors, j'ai bien sûr pensé à cet Euro, hein. J'ai été comme tous les participants marqués par cette aventure. Simplement, l'interprétation qu'en a été faite à l'époque... j'ai vécu du début jusqu'à la fin cet Euro. Je me souviens très bien qu'à la 38e minute, nous menions de 5 points contre la Lituanie et que le titre européen nous tendait les bras. Donc, j'ai pas oublié ça non plus. Et alors que beaucoup de gens l'ont oublié et ne se sont rappelés que de ce qui s'est passé à la fin. Et donc, c'est aussi ça qui m'a emmené dans cette direction. Parce que je pense que c'est aussi une raison d'humilité. Je pense que pour pouvoir atteindre les objectifs qui sont très élevés d'aller aux Jeux Olympiques, et si possible de façon directe, on ne peut pas faire l'économie d'avoir nos meilleurs joueurs. On a besoin d'avoir une équipe forte. Alors après, ce n'est pas une garantie. Je pense que c'est une nécessité. Maintenant, pour que ce soit suffisant, il faudra en plus, effectivement, qu'on ait une vraie cohésion d'équipe, comme toutes celles qui sont gagnantes.
Voilà. Eh bien, cette cohésion d'équipe, il faudra la créer durant tous les stages, durant tout cet été, avant ce déplacement donc en Lituanie pour l'Euro 2011. Merci beaucoup, Vincent Collet. On rappelle les prochaines échéances pour l'équipe de France. À partir du 12, le stage à l'INSEP. Et ensuite, il y aura des matchs à Pau, à Almeria pardon, face à l'Espagne. Et notamment le tournoi de Londres, qui sera très important avant donc cette début de compétition en Lituanie. Merci beaucoup, Vincent Collet, sélectionneur de l'équipe de France, d'avoir été avec nous ce matin pour revenir sur cette liste en vue de cet Euro en Lituanie.
RTL équipe, carrément basket, Frédéric Schweiker.
Et les invités s'enchaînent au sein de ce carrément basket pour la dernière après Vincent Collet. C'est Céline Dumère, la meneuse de l'équipe de France féminine, qui elle voit son Euro arriver très vite. Ce sera dès samedi la première rencontre pour l'équipe de France. Bonjour Céline.
Bonjour.
Je le disais, donc fin des entraînements, on a envie de dire fin des matchs de préparation. On passe désormais aux choses sérieuses avec cet Euro 2011 qui débute donc dès samedi en Pologne, Grèce, Croatie, Lettonie, les autres équipes de votre groupe. Ça s'annonce quand même assez relevé pour conserver votre titre. Il ne faut pas oublier qu'à 2 ans, c'était l'équipe de France qui s'était imposée.
Oui, bien sûr, mais comme tout championnat d'Europe, à un moment donné... Les équipes qui sont présentes ont toutes des qualités et c'est vrai qu'on va commencer dans un groupe qui potentiellement sur le papier est peut-être un petit peu enfin est plus ou moins à notre portée. Maintenant, on sait qu'une fois que la compétition est lancée, il faut donner le maximum pour essayer de remporter chaque victoire et uniquement d'un point, c'est ce qui compte quoi. Souvent, on a l'impression que on domine en gagnant de 20 points, mais rarement dans les championnats d'Europe, ça se passe ainsi.
Bon, est-ce que vous avez le sentiment que ce groupe est plus fort de par son expérience que celui de 2009 ?
C'est difficile, on vous dira ça à la fin, mais c'est vrai que pendant la préparation, on a montré de grandes qualités, notamment face à une difficulté, on a rencontré des matchs, même si les matchs amicaux se sont enchaînés et ont tous terminé par une victoire, on a été plusieurs fois mis en difficulté, on a su redresser la barre au fil des minutes des matchs, et ça c'est vraiment une grande qualité, peut-être ce qui nous manquait un petit peu en 2009, parce que même si à chaque fois on avait gagné au buzzer, c'était vraiment... beaucoup plus ric-rac, quoi, je dirais. Là, on a vraiment su montrer une certaine stabilité et ça, c'est vraiment bien pour la suite.
Jean-Luc Thomas, du quotidien L'Équipe, est avec nous.
Bonjour Céline. Vous avez vécu l'été dernier un mondial difficile dans le sens où il a été difficile de constituer le groupe, où il y a eu des absences, où ensuite vous avez fait globalement un très beau mondial, mais qui s'est terminé de façon un peu cruelle, un peu amère. Est-ce que l'on apprend encore quelque chose de ça ? Est-ce que ça rend plus fort finalement à l'heure d'aborder un euro où vous êtes tenant du titre et où vous avez une grosse cible dans le dos finalement?
Oui, non, bien sûr, effectivement, c'est vrai que chaque année qui passe et chaque victoire comme chaque défaite est une leçon, et je pense que le groupe qui était l'année dernière au championnat du monde a en mémoire notamment ce quart de finale contre l'Espagne. Maintenant, il faut pas non plus en retirer que le négatif et vraiment s'axer sur ce côté oh là là, le quart de finale, l'Espagne, les regrets, tout ça. Au contraire, il faut que ça nous nourrisse d'ambition.
Et vous en parle encore, Pierre Vincent, ou pas?
Comment?
Est-ce qu'il vous en parle encore, Pierre Vincent, justement, de ce quart de finale?
Oui, on a eu droit. Ouais. On a eu droit à un petit montage de deux quarts de finale complètement différents, un contre la Grèce en 2009 et un contre l'Espagne en 2010, pour justement montrer le contraste, ce qu'il y a à faire et ce qu'il y a à ne pas faire, quoi. Donc c'est intéressant parce qu'à un moment donné, c'est aussi apprendre des défaites et je pense que véritablement les filles qui ont participé au mondial ont vraiment en mémoire ce match-là, parce qu'on a fait une première mi-temps de dingue, et sauf qu'un match ça se gagne au bout de 40 minutes et même 45 en l'occurrence dans ce quart de finale. Et donc voilà, je pense que ça nous servira, j'espère qu'on n'en aura pas besoin et que la fin ne se déroulera pas comme ça. Mais en tout cas, c'est sûr que chaque fois que des moments durs comme ça se passent, il faut savoir relever la tête et apprendre de ses erreurs.
En tout cas, ça protège de toute arrogance ou de toute surestimation de l'équipe.
Ça, c'est sûr.
Oui, mais à un moment donné, on nous dit championne d'Europe, on nous dit oui, mais l'équipe championne d'Europe, c'était l'équipe de 2009, c'était il y a 2 ans, c'était avec d'autres joueuses, là où personne nous attendait aussi. Donc, il faut pas se voir plus beau que ce que l'on est. Mm-hmm. Aujourd'hui, on est une nouvelle équipe. Alors, c'est clair que, ça fait rêver l'équipe qu'on a. On a vraiment un secteur intérieur très fort. On a un axe 1-5 qui est vraiment intéressant. Des joueuses extérieures qui apportent la pierre à l'édifice. Enfin, vraiment, on a un groupe très plaisant, très solide. On est un groupe de 12 véritablement qui est capable d'apporter un petit peu. Et ça va être une des grandes qualités. Maintenant, on sait que les matchs, ça se gagne sur le terrain et que des fois, la loi du sport, c'est pas toujours celle du papier. Donc il va falloir véritablement batailler parce que maintenant, les équipes aussi adverses nous attendent. Ouais. L'année 2009, personne nous attendait là. Donc là, cette année, je pense que tout le monde a un petit peu peur de l'équipe de France et ça risque de nous mettre un petit peu la pression et à nous de gérer ça et justement de pas penser que ça va nous tomber dans les mains.
Pour conclure, Céline, on le disait, invaincu en préparation, dont 2 victoires contre les Tchèques, 1 contre la Russie et contre la Grèce. Est-ce que vous avez senti une vraie montée en puissance de cette équipe de France pendant ces matchs de préparation ?
Monter en puissance, oui et non, dans le sens où on a, au fil des matchs, mis en place notre jeu. On a ajusté aussi parce que les équipes qu'on a rencontrées ont été différentes dans leur profil. Quand on joue l'Israël ou quand on joue la Tchéquie, c'est pas du tout, c'est 2 équipes complètement différentes, donc il a fallu s'ajuster. Mais même au fil des matchs, on a su s'adapter, on a su monter en puissance au fil des matchs, notamment je pense à notre dernier match de préparation face à la Biélorussie où on fait une première mi-temps un petit peu difficile et on se rend compte qu'à la fin, on use nos adversaires et je pense que ce sera la clé de nos victoires, à un moment donné, de peser sur l'adversaire pendant 40 minutes pour à la fin faire la course en tête. Quoi.
Eh bien, merci beaucoup, Céline.
C'est tout le mal qu'on vous souhaite.
Oui, effectivement, avoir le même parcours. Peut-être un peu plus facile qu'en 2009, effectivement. Merci beaucoup, Céline Dumais, en tout cas, d'avoir été avec nous ce matin dans ce Carrément Basket pour cet Euro qui se profile dès samedi jusqu'au 3 juillet prochain. J'espère qu'on vous verra jusqu'au 3 juillet, Céline. Ça voudrait dire que vous jouerez la finale de cette compétition et que vous serez qualifié pour les Jeux Olympiques, parce qu'on vous rappelle également que cet Euro, comme pour les garçons, sera qualificatif.
Il n'y a qu'une place directe.
Oui, voilà, c'est pour ça. Il va falloir aller au bout, Céline. Hein. Comme ça, au moins, c'est réglé. On n'en parle plus pour l'année prochaine. Hein.
Très bien, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Céline. À très bientôt sur RTL L'Équipe.
Au revoir, merci.
RTL L'Équipe. Carrément Basket. Pro A, Pro B.
On a vécu du très beau spectacle samedi dernier dans la salle du PBR, du POPB, du PBR.
J'aimerais bien le PBR.
Du POPB de Bercy avec cette victoire de Nancy face à Cholet de 2 points, 76 à 74, grâce à un homme, notamment John Linehan, qui a réussi le panier de la victoire pour Nancy face à ses anciens coéquipiers. On a envie de dire, Jean-Luc, que ça a été tout bon pour l'équipe de Nancy. Ils retrouvent leur titre, abandonné remporté déjà en 2008. Et surtout, retour en Euroleague. Ça faisait un petit bout de temps également qu'on n'avait pas vu les Lorrains jouer la compétition européenne.
Ça va leur faire plaisir. Et puis voilà, ils vont être confrontés, ils vont retrouver le plus haut niveau européen.
Mm-hmm. Linehan a mis le shoot à 1 million d'euros, finalement.
C'est un peu l'idée, ouais.
C'est un peu ça, oui. C'est un peu ça. Pas mal pour un défenseur, finalement.
Ouais. 15 points
pour lui maintenant, d'ailleurs, il veut prouver qu'il est en effet le meilleur défenseur du monde en Euroleague.
Effectivement, pouvoir
je ferai un petit parallèle osé, certes, avec ce qui s'est passé en NBA, mais je trouve que une des grandes qualités de Nancy à travers sa finale, ça a été le même genre de stabilité émotionnelle que l'on a vu du côté de terrain de Dallas au moment de l'estocade, je trouve. Dans cette finale-là, moi, j'ai trouvé Nancy extrêmement stable.
Oui, Nancy a dominé.
Le
score est très, très serré, je trouve qu'ils étaient au-dessus.
Faut rendre hommage pour le coup à Jean-Luc Monchaud, qui a remarquablement abordé cette finale d'un point de vue mental, qui a remarquablement su transmettre à ses joueurs une certaine forme de sérénité. À l'inverse, probablement d'Herman Kunter, qui, je pense, s'est un petit peu perdu lors des 10 jours de break que Cholet a d'ailleurs fortement déploré. Mm-hmm. Et je pense que Herman, quelque part, a peut-être transmis à ses joueurs une certaine forme d'anxiété, de doute, qui ont peut-être pesé à l'inverse de justement la sérénité qu'a pu transmettre Jean-Luc Monchaux à ses joueurs.
Et Jean-Luc Monchaux qui a également su s'adapter, parce qu'on se souvient quand même que l'année dernière son jeu était quand même principalement tourné vers un jeu axé autour de Ricardo Greer. Là, pour le coup, Ricardo Greer parti, il a fallu revoir tout son style de jeu, repenser son jeu. Et là, pour le coup, c'est quand même pas donné à tout le monde et ça a été une belle réussite de la part de Jean-Luc Monchaux.
Oui, bon, mais c'est Ricardo Greer avait un profil très particulier, donc Jean-Luc s'est adapté à son jeu. Là, pour le coup, le leader, c'était peut-être plus John Linehan, et c'est un peu Linehan qui a donné le ton et qui a forgé, lui, un petit peu le profil de jeu de l'équipe de Nancy cette année.
Qui a terminé deuxième quand même la saison régulière, hein. C'est pas rien.
Moi, je suis pas loin de penser que Nancy, même si les chiffres le démentent, je suis pas loin de penser que Nancy avait cette année la meilleure équipe défensive de son histoire sous Jean-Luc Monchaux. C'était tout à fait flagrant en
play-off. Avec Akimbala à l'intérieur, la main.
Extrêmement athlétique, la seule qui pouvait probablement rivaliser avec Cholet dans ce secteur-là, ce qui est c'était une vraie gageure, parce que Cholet avait démontré toute la saison justement sa dureté, sa capacité à être très intense 40 minutes durant. Mm-hmm. Et Nancy avec Linehan en tête de pont finalement, aussi sur le terrain, hein, physiquement, a, je crois, gagné d'abord et avant tout ce championnat de France sur sa capacité à défendre.
On va écouter justement l'entraîneur de l'équipe du SLUC Nancy, les Cougars, Jean-Luc Monchaux, dans les rues de Nancy, quand ils ont fait la fête au sein de la ville lorraine. Jean-Luc Monchaux.
C'est difficile de comparer le plaisir du titre de 2008, celui d'aujourd'hui. C'est deux groupes différents, c'est deux démarches différentes. J'ai pas envie de dire qu'il y a un plaisir qui soit plus grand que l'autre. On n'est pas blasé en tout cas, donc on ne boude pas du tout le plaisir d'y retourner à cette ivresse. Mais surtout, le plaisir de jouer l'Euroleague. Et donc il y a vraiment, au-delà du titre conquis, il y a un prolongement tout au long de la saison prochaine.
Effectivement, l'objectif, bien évidemment, c'est de se projeter sur la saison prochaine avec cette Euroleague. Jean-Luc, c'est que rapidement, Nancy maintenant va devoir construire une équipe pour tenir et en championnat et en Euroleague pour la saison prochaine.
Oh, je pense qu'ils ont les moyens de le faire. Apparemment, tel que ça se dessine, ils devraient... peut-être qu'il va y avoir beaucoup de surenchères autour de gens comme Akinbala, comme Darden, etc. Mmh. Bon, les premiers signaux paraissaient encourageants. Voilà, s'ils arrivent à travailler en gardant la structure d'équipe qu'ils avaient cette année, je pense qu'ils auront les moyens au moins de rajouter un joueur. Quand on voit ce qu'a fait Cholet cette année, on peut espérer que Nancy soit à peu près dans ces clous-là, voire un petit peu mieux.
Pour un visage bien figuré, top 16, mais bien bon, figuré voilà. Effectivement, mais, dans la compétition reine.
On sait quand même pas ce qui peut se passer sur le marché par rapport à des joueurs majeurs qui pourraient partir.
Effectivement, par rapport à ce qui va se passer dans l'effectif de Nancy dans les prochaines semaines à venir. En tout cas, c'est terminé pour ce Carrément Basket, le dernier Carrément Basket. Merci beaucoup, Jean-Luc Monchaux, d'avoir été avec nous. Merci
Jean-Luc
beaucoup.
Thomas aussi.
Jean-Luc Monchaux, Jean-Luc Thomas surtout.
Les Jean-Luc.
Merci beaucoup, Jean-Luc Thomas, d'avoir été avec nous pour cette dernière.
Un
merci
grand plaisir,
beaucoup,
Fred.
Arnaud Lecomte, un grand merci à toutes les personnes qui ont participé à ces différents Carrément Basket pendant plusieurs années à travers les différentes émissions. À tous les acteurs du basket, bien évidemment, qui sont intervenus dans cette émission. Un bravo également à Nanterre et à Barcelone qui se sont imposés dans leurs finales respectives en Pro B et en Espagne. Et j'espère vous retrouver très vite pour l'actualité basket.
Merci.